Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais que l'on s'intéresse aujourd'hui à un concept brandi par certains comme un épouvantail.
Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Décroissance veut dire appauvrissement des Français.
Et par d'autres, comme une évolution inéluctable.
La décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute. Même en France, nous sommes tributaires des fossiles, et les fossiles vont décroître. Le monde qui s'annonce est en contraction énergétique. C'est un fait physique. Ça, c'est mon domaine, je suis sûr de moi.
Les avis bien tranchés du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de l'astrophysicien engagé pour le climat Aurélien Barrot. Voilà pour les opinions sur ce concept de décroissance auquel je voulais que l'on s'intéresse aujourd'hui. Mais au-delà des opinions, dans les faits, que désigne ce mot? D'où vient-il? À quand remonte-t-il? Qu'implique-t-il? C'est ce qu'on va voir avec vous, Timothée Paric. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur à l'université de Lund en Suède et vous venez de publier « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». Alors il me semble important, avant de parler de décroissance, de rappeler ce qu'est la croissance. Ces chiffres que les États dévoilent chaque trimestre, ce taux de croissance qui désigne l'évolution de la production de biens et de services dans un pays sur une période donnée, factuellement, Timothée Paric, c'est bien comme ça qu'on peut résumer?
Alors on peut résumer, on va dire plutôt que c'est un indicateur qui essaye d'estimer les niveaux de production. Et c'est un indicateur qui existe depuis les années 1930, qui avait été designé à l'époque pendant la crise. Et en fait, la stratégie pour arriver à estimer de manière agrégée les volumes de production d'une économie, c'était d'agréger toutes ces productions en fonction des prix de vente de ces produits sur les marchés et d'avoir donc cette espèce de grande calculatrice monétaire qui nous donnerait une sorte de thermomètre de compteur de tours plutôt, pour nous dire à quelle vitesse tourne l'économie.
Maintenant qu'on a défini la croissance, Timothée Paric, est-ce que quand on parle de décroissance, ça veut dire ne plus produire ou moins produire de biens et de services?
De la même manière que la croissance, c'est un phénomène macroéconomique agrégé, c'est-à-dire que même pendant une période de croissance, vous avez des entreprises qui vont moins produire, vous allez avoir des faillites d'entreprises, vous allez avoir des ménages qui vont moins consommer, mais ça va être compensé par d'autres ménages et d'autres entreprises qui vont produire et consommer plus. La décroissance, ça serait un petit peu la même chose. Donc même s'il y a des gens qui viendraient consommer plus, les ménages les plus modestes, et même s'il y a des entreprises qui viendraient produire plus, toutes les entreprises qui travaillent dans la transition écologique, ce surcroît d'agitation économique serait compensée par, en effet, des fermetures, des renoncements, des redirections écologiques dans des entreprises qui, aujourd'hui, ont des activités irréconciliables avec les objectifs de l'accord de Paris et de la soutenabilité écologique en général, et aussi avec des pratiques de consommation, notamment dans les ménages les plus riches, qui sont eux aussi incompatibles avec nos trajectoires d'atténuation du changement climatique.
Donc la décroissance, ça décrit finalement, en tout cas ça passerait finalement par la capacité pour des entreprises considérées comme responsables et durables à continuer à croître et en revanche à demander à des entreprises qui ne peuvent pas permettre d'atteindre la transition de cesser ou de se réorienter?
Moi, j'ai du mal à utiliser le concept de croissance déjà à l'échelle d'une entreprise. Les entreprises ne font pas de la croissance. Les entreprises, très concrètement, elles se posent la question de quoi produire et comment le produire. La croissance, c'est vraiment un concept, quand on entend parler de croissance dans les médias et dans le gouvernement, on ne parle pas de la croissance des entreprises, on parle de la croissance de l'économie dans son ensemble. Donc si aujourd'hui, on se dit que, sur la question fondamentale de quoi avons-nous besoin, ce dont la production dont nous avons besoin est bien inférieure au niveau de production qu'on a aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une certaine marge de manœuvre pour pouvoir réduire certains biens et services qui aujourd'hui peut-être ne contribuent pas de manière significative au bien-être, mais alourdissent énormément l'empreinte écologique. Donc là, ça permet déjà de faire la différence, de se dire, on va regarder sur chaque entreprise en fonction de son empreinte, en fonction de sa capacité à verdir sa production et en fonction de sa contribution à l'utilité sociale en général. Et on va se poser la question, est-ce que cette entreprise va devoir avoir une stratégie d'augmenter sa capacité de production, de la maintenir ou bien justement de la diminuer? Et après, l'agrégation de toutes ces actions dans toutes les entreprises, nous savons aujourd'hui que si on veut organiser une transition écologique efficace, il va falloir que le niveau agrégé de la production en France soit inférieur à celui d'aujourd'hui. Donc si on organise cette transition, mais qu'à la fin on se retrouve avec un PIB qui sera supérieur à celui d'aujourd'hui, vu que le PIB reste couplé aux pressions environnementales, eh ben, on ne sera pas sorti d'affaire.
Donc en fait, décroître, c'est finalement une planification de l'économie plus qu'une modification des modes de consommation de chacun d'entre nous ?
Dans une économie de croissance, on n'a pas tellement besoin de planifier parce qu'on n'a pas besoin de choisir. C'est-à-dire que quoi qu'on produise, le but c'est de produire plus, quoi qu'on consomme, le but c'est de consommer plus. Et pour le gouvernement, eh ben, quelle que soit la composition de l'économie, vu que le but c'est d'augmenter le PIB et que le PIB est un indicateur qui mesure la quantité mais non pas la qualité de ce qui est produit, eh ben, là aussi on peut se permettre de tout faire croître. C'est vrai qu'à partir du moment où on se dit « bon, ben, on a des budgets écologiques limités, donc il va falloir faire des choix », ça va nous demander une certaine planification. Mais il faut ajouter quand même que toute économie, de toute manière, est toujours d'une certaine manière planifiée. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les entreprises, elles ne produisent pas des choses au hasard. Elles prennent des décisions sur quels biens et services produire. Et de la même manière qu'avant, bah, peut-être le secteur de l'automobile, à un moment donné, a décidé que c'était une bonne idée de produire des voitures surdimensionnées. Et bah là, dans une optique de décroissance où justement on va produire sous contrainte écologique, on va pouvoir se dire « ah bah tiens, ce serait pas mal de renoncer, c'est-à-dire de fermer les processus de production, d'arrêter de produire des SUV par exemple, et de concentrer notre infrastructure, de faire une redirection écologique pour peut-être se concentrer sur des biens et services comme des vélos et d'autres modes de mobilité active qui nous permettraient de satisfaire des besoins. Donc là, on retombe sur le bien-être, mais à une moindre empreinte écologique. »
Alors, je voudrais qu'on écoute l'une de celles qui s'est emparée de la décroissance quand elle était candidate à l'investiture Europe Écologie Les Verts pour la dernière présidentielle, en l'occurrence Delphine Bateau, chez nos confrères de BFM Télé.
La décroissance, ce n'est pas la récession.
Ce qui me frappe, Timothée Parix, c'est que pour expliquer la décroissance, Delphine Bateau explique ce qu'elle n'est pas. Vous qui vous en êtes fait une spécialité, décroissance, c'est un mot qui fait peur. Quand vous dites que vous travaillez sur ce sujet en dehors des cercles initiés, on vous répond quoi ?
Ah ben, on me regarde avec des grands yeux. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma thèse sur la décroissance dans le département d'économie, les premières semaines, les gens me regardaient, ils se disaient, lui, là, il n'a pas très bien compris qu'est-ce qu'on fait ici. Hein. Il fait le contraire. Nous, on fait de l'économie du développement et lui, il travaille exactement pour déconstruire cette même chose que nous, on essaye désespérément d'atteindre, c'est-à-dire la maximisation de la croissance économique. Donc, c'est vrai que ça renverse un petit peu notre imaginaire économique qui, pendant plusieurs décennies, a assimilé la croissance avec la prospérité et le contraire de la croissance, donc la récession, avec l'échec, avec la crise. Mais aujourd'hui, moi, justement, je pense qu'on est en train de vivre un grand changement sur cette question. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la croissance qui fait peur dans le sens où chaque point de croissance s'accompagne d'un alourdissement des empreintes écologiques qui amène des conséquences de plus en plus désastreuses. Alors que justement, un ralentissement de l'activité économique pourrait avoir des bénéfices, bon, déjà écologiques, ça on s'en est rendu compte pendant la pandémie, hein. Même si la pandémie c'était vraiment récessif, hein, c'était pas un ralentissement façon décroissance sereine, conviviale, organisée, mais on a quand même vu que ça avait une efficacité écologique indéniable. Donc ça ouvre quand même une hypothèse de se dire, mais si on arrivait à planifier notre production et notre consommation pour justement arriver à ralentir nos activités économiques de manière sereine et organisée, est-ce qu'on pourrait pas justement s'orienter vers une économie de la post-croissance, donc qui arrive à prospérer sans croissance? Et là, quand on raconte ça, je pense qu'on arrive à sortir un petit peu de la peur, parce qu'on se rend compte que peut-être cet imaginaire qui associe croissance et prospérité n'était pas vraiment légitime, parce que, et c'est même les gens qui le calculent, qui calculent le PIB le rappellent, le PIB n'a jamais était un indicateur de bien-être.
Mais simplement sur le ralentissement, c'est peut-être justement ça qui fait peur. Parce que quand on parle de récession, on sait que la récession s'accompagne d'une augmentation du chômage. On entendait Bruno Le Maire en introduction de ce podcast lors d'un échange avec Delphine Bateau dans le club de l'économie de nos confrères du Monde faire le lien entre décroissance et pauvreté. Produire moins, ralentir l'activité économique, ça n'est pas créer davantage de pauvreté et d'inégalité.
Je pense pas. Aujourd'hui, les liens entre la croissance et la pauvreté, la croissance, les inégalités, la croissance, l'emploi, la croissance et la qualité des services publics et la croissance entre le bien-être, moi, c'est ce que j'appelle les fausses promesses de la croissance. Si on regarde dans un pays comme la France, donc le PIB n'est plus corrélé à ces indicateurs. Donc, on a, pour prendre la pauvreté, la croissance n'éradique pas la pauvreté. La croissance, la pauvreté augmente dans un pays comme la France malgré la croissance économique. Donc là, on voit bien que le bouton PIB ne va pas résoudre des problématiques beaucoup plus complexes, pour le cas de la pauvreté, qui demandent des stratégies d'allocation, hein, de partage, on pourrait dire, plus qu'une maximisation un petit peu avec le de la production. Pareil pour la question de l'emploi. La croissance économique crée des emplois de manière aveugle, quand elle en crée, ce qui n'est pas automatique. Aujourd'hui, on se rend compte que la problématique de l'emploi, c'est plus de créer des emplois qui ont du sens, associés à des biens et services que l'on peut soutenir écologiquement sur le long terme et qui contribuent au bien-être général. Le but, ce n'est pas juste de générer de l'emploi comme on le faisait au début du XXe siècle, à la Grande Dépression, façon Keynes, où on paye la moitié de la population pour creuser des trous et l'autre moitié pour les reboucher. Donc, moi, je pense qu'un ralentissement économique qui serait organisé, et c'est vraiment l'argument que je développe dans le livre, et théoriquement, sur le papier, en tout cas, tout fonctionne, pourrait se faire avec à la fois une éradication de la pauvreté qui reste dans un pays comme la France, une réduction des inégalités, la réduction du chômage, des services publics de qualité et une augmentation générale du bien-être.
Timothée Paris, qu'on parle désormais beaucoup à la faveur de la crise énergétique de sobriété, et voici d'ailleurs comment la Première ministre Elisabeth Borne avait présenté son plan de sobriété début octobre.
La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance.
Alors c'est quoi la différence, Timothée Paris, entre sobriété et décroissance ?
La sobriété, c'est un petit peu l'acte individuel, c'est-à-dire que vous êtes consommateur, vous dire ok, je vais faire de la sobriété, je vais peut-être baisser la température de mon thermostat à la maison, je vais peut-être essayer d'utiliser moins ma voiture, je vais peut-être manger un petit peu moins de viande ou décider de moins prendre l'avion, ça va faire baisser ma demande en énergie. Alors maintenant, ça c'est la sobriété concernant la demande énergétique, mais on pourrait dire la sobriété concernant toutes sortes de pressions environnementales, essayer de faire attention à la biodiversité, aux empreintes carbone, à l'empreinte en eau, à l'empreinte matière, toutes ces choses-là vont demander une déconsommation de certains biens et services. Après, si on agrège tous ces comportements de sobriété, donc qui vont être très importants chez les ménages les plus riches, moins importants chez les ménages les plus modestes, bien sûr, parce qu'on sait que les pressions environnementales sont corrélées aux revenus et à la richesse, eh ben, si on les agrège tous ensemble, pour moi, macroéconomiquement, ça mènerait vers une décroissance. C'est-à-dire que ça serait un petit peu bizarre si justement tout le monde se mettait à consommer moins, mais les niveaux de production restaient les mêmes. Donc justement, pour moi, l'objectif, c'est de créer un cercle vertueux où à travers des pratiques de simplicité volontaire, de sobriété heureuse, d'hédonisme alternatif, de minimalisme, ou on pourrait dire voilà, de sobriété à l'échelle individuelle, on arrive à réduire la consommation. Et donc, cette réduction de consommation va se traduire chez les entreprises par un renoncement à produire. Donc, par exemple, je suis une entreprise de l'automobile, je me rends compte que les gens décident de moins acheter de voitures parce qu'ils arrivent à faire du covoiturage, parce qu'ils prennent le train, parce qu'ils arrivent à aller au travail en vélo ou à faire du télétravail. Et bien, en tant que constructeur automobile, je vais me dire, tiens, je vais réduire les niveaux de production d'automobile. Je ne vais pas me dire, très bien, je continue à produire et je vais vendre mes voitures à l'étranger. Parce que sinon, on se rend bien compte que ça ne va pas faire baisser l'empreinte. Donc là, il faut que le constructeur automobile se dise, ok, je réagis à ces comportements de sobriété, ce qui va me permettre de réduire ma production. Et là, on crée un cercle vertueux aussi, où peut-être ce constructeur automobile va faire une redirection écologique pour participer à la construction d'une infrastructure de mobilité active qui va permettre à de plus en plus de consommateurs d'abandonner leur voiture. Et là, on a un cercle vertueux qui va vers inventer un nouveau mode de satisfaction d'un besoin, mais à moindre empreinte écologique.
Mais ce n'est pas utopique, la décroissance ? Ça vous paraît crédible, ce que vous décrivez là ?
Ça n'a jamais été aussi crédible qu'aujourd'hui. C'est pour ça que le concept explose. Moi, je suis surpris vraiment, là, pendant la tournée du livre, d'avoir été invité par des gouvernements, des entreprises, des associations, des universités, un petit peu partout, et de voir que personne ne résiste à la décroissance, dans le sens où moi, je m'attendais vraiment à des vagues d'insultes et des débats vraiment difficiles, mais je suis arrivé, toutes les portes étaient ouvertes. Et donc, je ne pense pas que ça soit aussi utopique que ça l'était au début des années 2000, quand le concept est apparu en 2002 en France, où on parlait de décroissance soutenable et de décroissance conviviale pour contraster un petit peu les objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, c'est une utopie, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une utopie qu'on pourrait dire une utopie concrète. C'est-à-dire que quand on regarde les choses que proposent les chercheurs et les activistes qui parlent de décroissance, on retrouve ces institutions dans l'économie aujourd'hui. On regarde l'économie sociale et solidaire et leurs coopératives à lucrativité limitée, avec une démocratie d'entreprise multipartie prenante. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui existent en France. On regarde les monnaies locales, on regarde les stratégies de réduction de temps de travail, par exemple, aux Pays-Bas. On regarde les indicateurs alternatifs au PIB, comme les budgets bien-être de la Nouvelle-Zélande. On peut regarder la gratuité socialisée de certains biens et services, comme la santé ou les transports de proximité dans certaines villes en France. On peut regarder des pratiques d'interdiction de certaines formes de publicité, comme l'interdiction de la publicité dans les espaces publics, dans la ville de Grenoble depuis 2015. Donc moi, toutes les pratiques vraiment que j'ai observées et que j'assimile à la décroissance, et dans un papier qu'on vient de publier, on en a nommé quand même 380 instruments de décroissance, c'est des choses qui existent déjà. Donc l'utopie, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à articuler toutes ces pratiques, toutes ces institutions, tous ces instruments pour former justement une véritable alternative à l'économie de croissance que nous avons aujourd'hui.
La décroissance, un concept donc français qui a une vingtaine d'années, est-ce que c'est un concept marqué politiquement ?
Alors historiquement, c'est un concept qui a beaucoup plus été saisi par la gauche. Il n'y a jamais vraiment eu de mobilisation du concept de décroissance à droite. Donc on va dire que oui, historiquement, c'est quand même très, très porté par la gauche.
Alors ce concept de décroissance, il est aussi souvent associé à une expression, celle d'écologie punitive, comme le soulignait Olivier Bost dans son édito politique en septembre 2021 sur RTL.
Ça fait tout de suite penser à l'écologie punitive, une formule de la redoutable Ségolène Royal pour dénoncer toute contrainte. La décroissance, ça fait peur en fait. Personne n'a envie de se voir restreint dans ses envies de consommer ou empêché de se déplacer comme il l'entend. Autrement dit, c'est électoralement invendable. La décroissance, ça sent la punition et des lendemains bien tristes.
Timothée Paris, qu'est-ce que la décroissance, c'est punitif ? Est-ce que c'est de la contrainte ? Vous avez vous-même utilisé ce mot contrainte au début de ce podcast.
Moi, en tant que macroéconomiste, quand je regarde une économie, qu'elle soit capitaliste, qu'elle soit socialiste, n'importe quelle économie fonctionne toujours sous la contrainte. C'est-à-dire que l'économie, c'est les protocoles sociaux qui nous permettent d'organiser la production. Et donc, il va falloir qu'il y ait toujours une certaine forme de coopération, une certaine forme d'entraide. Et donc, on a des lois, on a des règles, on a des taxes. La décroissance aujourd'hui, vu que c'est un changement d'objectif, avant l'objectif de l'économie, c'était d'amasser des points de PIB. Bon, on se rend compte que ce n'est peut-être pas le meilleur objectif, non seulement pour être soutenable sur le long terme, mais aussi pour optimiser le bien-être. Donc, on change l'objectif vers les budgets bien-être. Si on change l'objectif, ça veut dire qu'il faut changer aussi les règles du jeu et il faut changer certaines contraintes. Donc, par exemple, on ne peut plus avoir la publicité qui incite les gens à consommer. Si on essaie de faire de la sobriété, on se rend compte que la publicité est un obstacle et donc il va falloir changer. Mais la publicité aujourd'hui est une contrainte, c'est une contrainte à consommer. Donc il faut se dire, aujourd'hui c'est le contraire, il faut plutôt avoir une contrainte, des incitations, on pourrait dire en économie, à déconsommer alors qu'avant on avait des incitations à consommer. Pareil au niveau des modèles d'entreprise. Pendant longtemps, on s'est dit, c'est bien d'avoir des modèles d'entreprise qui incitent à produire plus. Parce que si on veut augmenter le PIB, c'est très très bien que les entreprises cherchent à se faire de la compétition sur leur capacité de production. Mais là, on se dit, c'est un petit peu le contraire. Aujourd'hui, là, on arrive dans une économie de la qualité, où en fait, il va plutôt falloir coopérer entre les entreprises de certains secteurs pour arriver à faire des redirections écologiques. Donc là, le modèle d'entreprise à but lucratif qui booste les profits à tout prix, ça devient un obstacle et donc on va changer l'incitation. On va se dire plutôt on va avoir des modèles d'entreprise façon coopérative à lucrativité limitée avec une comptabilité sociale et écologique où ces entreprises vont d'abord prioriser la convivialité sociale et la soutenabilité écologique avant de se soucier de leurs profits. Donc moi je considère pas ça comme étant particulièrement plus punitif que n'importe quelle politique économique. C'est juste un changement d'objectif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde le fonctionnement même de notre économie aujourd'hui, je trouve le mot punitif est souvent mobilisé pour faire soit appel au spectre de la dictature, se dire ça va être quelque chose qui va être imposé. Voilà, la production aujourd'hui est imposée. Enfin, je veux dire, combien d'entre nous peuvent vraiment décider de qu'est-ce qui est produit et comment le produire ? Ces décisions sont extrêmement concentré à l'échelle de quelques entreprises. Donc là, déjà, pour pouvoir se poser la véritable question de quoi avons-nous besoin, quoi prioriser et comment s'organiser pour le produire, ça va demander une grande démocratisation de l'économie. Donc pour moi, déjà, ça évacue directement le spectre de la dictature verte.
Voilà, alors maintenant qu'on sait ce que c'est, libre à chacun de se positionner sur cette décroissance. Merci Timothée Parikh de nous avoir aidé à y voir plus clair dans ce focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.